Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Il est 17h, l'heure de votre journal. À la une, la France sous une chape de plomb, 58 départements en vigilance rouge. L'épisode de canicule actuel a été identifié comme étant le plus sévère jamais connu à cette période de l'année. Selon Santé publique France, on y revient dans quelques instants. Premier cas d'Ebola diagnostiqué en France, un médecin revenant de République démocratique du Congo placé à l'isolement. Et puis enfin, la Coupe du Monde. Le Maroc veut terminer le travail contre Haïti ce soir. Les Lions de l'Atlas pourraient même terminer premier de leur poule. On vous en parle en fin de journal. Quatrième journée consécutive de vigilance rouge canicule dans tout le pays, dans l'Hexagone, 58 départements concernés. Rendez-vous compte, demain, ce seront bien 72 départements. En comptant les 31 départements en vigilance orange, plus de 90% des Français se retrouvent exposés à des chaleurs extrêmes entre 39 à 41 degrés même. Clara Dubanchet, quel bilan dressé de cette nouvelle journée de canicule sur le territoire français ?
Par où commencer? L'ensemble du territoire et des Français traversent depuis plusieurs jours ces températures historiques. Ce soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit une cellule interministérielle de crise à Matignon. Pour cause, différents secteurs se retrouvent impactés par les effets de cet épisode de canicule. Côté santé, l'Agence sanitaire nationale annonce un pic inédit, rarement voire jamais observé, de recours aux soins d'urgence pour des coups de chaleur. Le nombre de passages aux urgences, notamment pour des coups, a été multiplié par 3 en quelques jours. Toutes les classes d'âge sont concernées, en particulier chez les jeunes. Pour les scientifiques, cela illustre et la rapidité des effets de l'exposition à la chaleur sur la santé de la population.
Et quelles autres conséquences pouvons-nous observer, Clara ?
Chez les particuliers, cette fois, ce sont plus de 70 000 foyers qui se retrouvent privés d'électricité en France. 68 000 dans l'ouest du pays, en Bretagne, 5 000 dans le Vaucluse. Tous victimes des effets de la canicule sur les réseaux terrains qui peuvent surchauffer jusqu'à 80 degrés.
Et quel impact pour les élèves notamment qui passent actuellement des examens ?
Pour les lycéens, la chaleur oblige 10 000 candidats au bac à avoir leurs épreuves orales reportées. Malgré les fortes températures, les épreuves du brevet sont-elles maintenues vendredi pour les troisièmes, même si le ministère de l'Éducation annonce des aménagements comme des pauses pour les collégiens. Demain, pourtant, les trois quarts de la France seront en alerte maximale en raison de la canicule à partir de la mi-journée.
Merci beaucoup Clara Dubanchet. On vous le disait donc, 72 départements placés en vigilance rouge avec des températures exceptionnellement élevées pour la saison. La France figure parmi les pays les plus touchés par cet épisode de chaleur extrême. Mais comment les Français supportent-ils ces fortes chaleurs au quotidien ? Salma Darlaoui et Thibaut Richard sont allés à leur rencontre. On les écoute.
La France a connu mardi sa journée la plus chaude depuis 1947 et la canicule risque de durer puisque les trois quarts du pays sont toujours en alerte maximale. Mais comment les Français font-ils pour supporter ces fortes chaleurs ?
Je vais au bureau, puisque au bureau c'est climatisé.
Boire un peu d'eau, se laver, il faut faire attention, il faut rester toujours à l'ombre. Et voilà, qu'on n'a pas le choix. C'est la chaleur de Dieu. On faut se porter, voilà.
Je bois des boissons fraîches, déjà, pour commencer. Et puis, j'essaye d'aller dans les endroits un peu frais. J'avoue que j'ai pas de clim chez moi et que les appartements dans Paris, on sait que c'est chaud. Mais même au travail, j'ai pas de clim, donc c'est un peu pénible. Mais douche froide aussi, voilà. On fait comme on peut et gants de toilette avec de l'eau froide, quoi.
Déjà, je bois beaucoup. Après, j'essaye d'éviter de sortir les après-midi. Ouais, on survit, quoi.
La France devient le pays le plus anormalement chaud du monde par rapport aux températures normales, ce qui génère des inquiétudes chez les Français. On les écoute.
Pour l'avenir, je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte parce que ça va arriver de plus en plus souvent.
Ça me paraît assez logique qu'il fera de toute façon de plus en plus chaud, de plus en plus souvent. Donc, ça va être assez éprouvant, surtout pour les enfants. Et puis les personnes âgées.
Pour les proches, c'est vrai, on est toujours en contact avec eux pour voir que si ça se passe bien.
Quand on se dit qu'il y a des si gros changements en une semaine et qu'il ne devrait pas faire aussi chaud, c'est sûr que ce n'est pas un super bon indicateur pour le futur, quoi.
Alors n'oubliez pas de vous hydrater, de rester à l'ombre dans des endroits climatisés et surtout faites attention aux personnes qui vous entourent, notamment les plus vulnérables comme les personnes âgées et les enfants.
Des propos recueillis par Selma Darlaoui et Thibaut Richard. La canicule et ses conséquences. Un enfant de 6 ans a trouvé la mort tragiquement hier en Gironde. Les secours ont été appelés vers 18h30 aux abords du lac de Bègles pour secourir le jeune garçon. Hier, la zone n'était pas surveillée. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de l'actualité, un premier cas d'Ebola a été identifié en France métropolitaine. Ce sont les autorités françaises qui l'ont annoncé. Le patient est un médecin qui revient d'une mission humanitaire en République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, actuellement touché par une épidémie sévère d'Ebola. La situation est suivie de près par le Premier ministre, a réagi Matignon. L'état du médecin est stable. À présent, coup de projecteur sur la situation tragique au Liban. Malgré la signature du protocole d'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, la ministre Eleanor Caroua vient de mener une mission inédite dans le pays conjointement avec ses collègues du Qatar et du Royaume-Uni. Elle accordait un entretien exclusif à Radio Orient. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger.
Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est absolument tragique. Le nombre de déplacés, le nombre de personnes qui ont perdu leur maison, qui ne savent pas quand est-ce qu'elles pourront retourner dans leur village, dans leur ville, est extrêmement important. Et je m'attendais évidemment à cela parce que je connaissais les chiffres, je connaissais les bilans, mais de voir toutes ces personnes qui malgré tout gardent espoir et qui surtout sont prêtes à retourner chez elles, c'est quelque chose auquel je m'attendais moins. Je vous donne un exemple très précis. J'ai été visiter plusieurs écoles transformées en abris pour les déplacés. Or, pendant mon séjour, l'accord de paix a été signé. Certaines de ces personnes ont cru que la signature de cet accord signifiait l'arrêt des hostilités et ont décidé de repartir sur le champ chez elles. Et dans la nuit, Israël a très lourdement bombardé le sud du Liban. Et donc ces mêmes personnes qui étaient parties ont fait demi-tour. Donc ce que je veux illustrer par là, c'est la très grande volatilité de la situation. À la fois le grand désespoir de toutes celles et ceux qui sont déplacés, mais leur envie d'aller de l'avant, quoi qu'il en coûte et malgré cette situation absolument tragique.
La voix des Libanais, à la fois du peuple libanais et de l'exécutif libanais, cette voix est-elle suffisamment écoutée, suffisamment entendue ?
Eh bien, je pense qu'elle doit l'être encore davantage et c'est d'ailleurs précisément l'objet de ma visite. Pour moi, ce qui est important, c'est que la communauté internationale de manière générale, mais en particulier en ce qui concerne les négociations qui sont aujourd'hui en cours et les discussions qui sont en cours par rapport à un cessez-le-feu et à la paix entre l'Iran et les États-Unis, prennent en compte la situation du Liban, mais surtout les priorités identifiées par le Liban, par le gouvernement libanais. Et donc, les Libanais sont aujourd'hui aussi en négociation directement avec Israël à Washington. La situation, comme je le disais, évolue. C'est-à-dire qu'on voit que les négociations se font par étapes. Et même après la signature d'un accord ou d'un protocole, eh bien, l'important, c'est évidemment de sa mise en œuvre. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est que des pays comme la France, qui pèsent dans les relations diplomatiques à l'international, ne serait-ce que parce que nous sommes un pays membre permanent du Conseil de sécurité, parce que nous avons aujourd'hui la présidence du G7, parce que nous avons de nombreuses instances dans lesquelles nous avons un rôle actif, puisse porter justement la voix du Liban.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Eleanor Caroua. L'intégralité de cet entretien exclusif ce soir à retrouver à 19h sur Radio Orient. Émission présentée par François-Xavier de Calonne. L'armée israélienne a indiqué avoir mené une frappe contre deux membres du Hezbollah dans une zone du sud du Liban où sont déployés des soldats israéliens. Cette frappe survient alors que le Liban et Israël ont entamé mardi à Washington une cinquième session de négociations directes entre les deux pays auxquels s'oppose le Hezbollah. L'armée israélienne avait tiré déjà mardi sur des groupes de personnes qu'elle a présentées comme des terroristes, je cite, faisant au moins 2 morts selon les autorités libanaises. Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé aujourd'hui sous la barre des $75 pour la première fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le marché étant rassuré par la reprise progressive du trafic dans le détroit d'Ormuz. La Coupe du Monde à présent, ce soir, heure française, 21h. Déjà, les premières affiches de cette troisième journée de la Coupe du Monde. Bosnie-Qatar, Suisse-Canada et surtout un match que beaucoup de monde attend. Maroc-Écosse à Boston. Le Maroc vise la première place du groupe Salma Darlaoui.
Et oui, Wallis, le Maroc dispute dans la nuit de mercredi à jeudi face à Haïti son dernier match de la phase de groupe de ce Mondial 2026. Une rencontre 4 capitale pour les Lions de l'Atlas, actuellement deuxième du groupe C avec 4 points, à égalité avec le Brésil. En face, Haïti est déjà éliminée après 2 défaites consécutives dans cette phase de groupe. Les Haïtiens joueront toutefois pour l'honneur. Sur le papier, le Maroc part donc avec les faveurs des pronostics. Après un match nul convaincant face à la Seleçao, puis une victoire précieuse contre l'Écosse, les Marocains ont leur destin entre les mains. Un succès contre Haïti leur assurerait une qualification pour les 16e de finale et pourrait même leur permettre de terminer en tête du groupe, selon le résultat de l'autre rencontre opposant le Brésil à l'Écosse. Présent en conférence de presse à la veille du match, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Mohamed Ouahbi a insisté sur l'importance de ce rendez-vous et sur la nécessité de rester concentré malgré le statut de favori de son équipe. On l'écoute.
Moi, je veux être premier. Et je veux être premier, et je veux battre Haïti, être premier, passer devant le Brésil. Comme je l'ai dit à la dernière conférence de presse, l'objectif c'est de gagner le match. Donc on a un véritable objectif, donc il va falloir mettre la meilleure équipe possible. Et la meilleure équipe possible qui, bien entendu, qui dépend du contexte, de l'adversaire, du fait que ce soit le troisième match. Du fait, Inch'Allah, qu'on a beaucoup de chance d'être déjà qualifié, pas encore, mais on a quand même beaucoup de chance. Donc c'est clair qu'on tient compte de tout ça. Donc il y a des joueurs qui sont bien, ils sont bien physiquement. Donc on pourrait repartir avec la même équipe sans problème.
C'était Mohamed Ouahbi, sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc.
Alors Selma, si on faisait un petit peu du football fiction, en cas de 16e de finale, quels seraient les potentiels adversaires du Maroc?
Alors la première place du groupe offrirait un tirage théoriquement plus abordable lors du prochain tour. Le vainqueur du groupe C affrontera le deuxième du groupe F, où la lutte fait déjà rage entre les Pays-Bas et le Japon. Et le deuxième du groupe C, lui, devra se mesurer au leader de cette poule. Donc on peut déjà imaginer une rencontre Maroc-Pays-Bas ou Maroc-Japon. De quoi faire vibrer les supporters dans ces matchs à élimination directe. Mais comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, un éventuel choc entre le Maroc et la France qui reste extrêmement improbable, voire presque fictif, justement. Pour que ce scénario se concrétise, les Lions de l'Atlas devraient s'incliner face à Haïti, tandis que l'Écosse devrait battre le Brésil et la France devrait terminer deuxième, donc perdre face à la Norvège d'Erling Haaland. Un scénario qui relève quasiment de la fiction, mais qui offrirait une affiche particulièrement attendue, notamment une revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, remportée 2-0 par la France. Mais avant d'envisager un tel duel, le Maroc devra d'abord accomplir sa mission, battre Haïti, valider sa qualification et poursuivre son aventure américaine.
Merci beaucoup Selma Darlaoui. Donc je le rappelle, Maroc-Haïti ce soir à minuit. Nous serons tous bien évidemment devant nos écrans. C'est la fin de notre édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Radio Orient. Je vous donne l'heure même. Il est 17h12. On se retrouve pour le prochain bulletin d'information. Ça sera un flash à 18h. À tout à l'heure.